Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
L'Intégral Sport jusqu'à 16h sur RMC. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Les 15h08 et dans un instant, on prend la direction de Villeurbanne. Ce soir, match décisif pour le titre de champion de France de basket entre l'ASVEL et Monaco. On va retrouver Jérémy Donzé et notre invité, le capitaine de l'ASVEL, Charles Cahudi. À 15h30, on va vous présenter également les championnats de France d'athlétisme qui se disputent à Caen. Tout le week-end, on parlera notamment des dernières chances de qualification pour les mondiaux de Eugene aux États-Unis qui se dérouleront dans le courant du mois de juillet. Et puis à 15h40, on traversera la Manche. On vous présentera le tournoi de Wimbledon. C'est le 3e grand chelem de la saison après l'Open d'Australie et après Roland-Garros. Analyse du tableau, évidemment, avec Eric Salio. D'ailleurs, le tennis, c'est un direct puisque c'est la première finale pour Caroline Garcia depuis 2019. Elle est en finale d'un tournoi sur gazon en Allemagne, Bad Homburg. Ça se passe moyennement pour elle puisqu'elle a perdu le premier set contre la Canadienne Bianca Andreescu 7-6. Il y a deux partout actuellement dans la deuxième manche. Mais donc, je vous le disais, à 15h09 sur RMC, on s'intéresse au basket et nous sommes à 40 minutes d'un titre de champion de France. Ce sera désigné ce soir à l'Astrobal, un magnifique duel entre l'ASVEL, double champion en titre qui vise un triplé historique, et Monaco qui, de son côté, espère un premier sacre. Monaco qui nous a fait vibrer tout au long de la saison avec des playoffs d'Euroleague. Deux partout au coup d'envoi et match 5 à suivre en intégralité sur RMC à partir de 20h30. Jérémy Donzé est en direct avec nous depuis Villeurbanne. Salut Jérémy.
Salut Benoît, bonjour à toutes et à tous. 40 minutes minimum.
Minimum, soir, tu as raison, ça peut aller en prolongation. Ça peut être un match à rallonge. Et on accueille le capitaine de l'ASVEL, Charles Cahudi. Salut Charles.
Salut, bonjour à tous.
Voilà, Charles qui est concentré. Charles surnommé l'homme, évidemment, dans le milieu du basket. Tout va bien Charles? On précise que tu es blessé, hein. C'est pour ça que malheureusement tu peux nous répondre au téléphone à quelques heures de ce match 5. Déjà, comment tu vas toi physiquement Charles?
Tout à fait, malheureusement blessé, mais bon, forcément frustré, mais quand même très fier de mon équipe. Bon, bon match ce soir pour nous.
Quel est ton rôle? Parce que toi, tu es un joueur d'expérience. Est-ce que tu encadres tout de même tes coéquipiers pour les maintenir sous pression avant ce match décisif?
Je pense que c'est primordial. C'est primordial d'être le plus concentré possible. On a pu le voir dans les différents matchs de cette série.
Ouais.
Où il y a eu léger relâchement dans la préparation peut-être, ou dans comment on abordait les matchs, et on a pu le payer cash. Dès qu'on a été concentré, je pense qu'on a pu dominer cette équipe de Monaco qui a beaucoup d'armes offensivement de leur côté, mais on a réussi à trouver des solutions.
C'est vrai que c'est ce qui nous surprend, Jérémy, dans cette finale entre les deux grands favoris du championnat de France, l'ASVEL et Monaco, c'est que finalement on a eu assez peu de matchs accrochés. Il y en a eu 4 des rencontres sur cette finale puisqu'ils se sont rencontrés hors finale de championnat de France, mais on a eu souvent des matchs particuliers, notamment la victoire de l'ASVEL lors du match 4 à Monaco, 85-68. Quand je regarde les scores, finalement, il n'y a qu'un seul match qui a été disputé, c'est ce Monaco-ASVEL, le match 3, 83-80.
Ouais, exactement. Ouais, c'est un peu les montagnes russes dans cette série. On a un peu tout vécu. On rappelle que l'ASVEL avait l'avantage du terrain pour recevoir les deux premiers matchs de cette série en finale du championnat de France. L'ASVEL qui a perdu cet avantage d'entrée avec une victoire de Monaco à l'Astrobal, match contrôlé par les Monégasques. Charles en parlait. Il y a eu des manques côté Villeurbanais, des manques qui ont été rapidement comblés pour égaliser à un partout. Une victoire de 37 points sur le match de 91-54. Il n'y a pas eu match à l'Astrobal. On a basculé du coup à un partout du côté de Gaston Médecin. Il y a eu cette victoire, t'en parlais, de 3 petits points pour Monaco, mais un match quand même plutôt contrôlé là aussi, le match 3 de lundi. Et puis, nouvelle réaction des hommes de TJ Parker, mercredi, pour aller arracher ce match 5. Une victoire de 17 points, 85-68 donc sur le parquet de Monaco, alors que Monaco avait une balle de match, une première balle de match. On en a une deuxième ce soir, mais une première balle de match pour conquérir ce qui serait le premier titre de l'histoire du club après les finales déjà perdues en 2018 et en 2019. Je précise d'ailleurs qu'on en est on est 3 ans jour pour jour ce samedi après la finale remportée par l'ASVEL le 25 juin 2019. Cette finale 3-2 dans une Astroballe en pleine étuve. Ouais, exactement. Il fera moins chaud hein, ce soir évidemment au moment de la rencontre. Il y avait eu plus de 35 degrés il y a 3 ans. Heureusement, il fera un petit peu moins chaud, mais l'ambiance, elle promet d'être exceptionnelle puisqu'on aura salle comble ce soir pour l'épilogue de cette saison. Très très longue saison, 79e match de l'ASVEL, 87e de l'AS Monaco.
C'est plus qu'une saison régulière de NBA pour l'AS Monaco. Charles Cahudi, donc capitaine de l'ASVEL, tu es la légende de ce club de Lyon-Villeurbanne, hein, tu es là depuis 2015. Et toi, tu as connu des matchs 5 en finale de championnat de France, tu en as connu 2. Et à chaque fois, ça s'est bien passé pour toi, hein, Charles. Vous avez gagné à l'extérieur à Strasbourg en 2016. Et Jérémy le disait, vous avez battu également Monaco en 2019. Comment on aborde un match décisif comme ça lorsqu'une saison se joue sur un seul match, Charles ? Quelles sont les clés, justement ?
Tout à fait. C'est vrai que j'ai connu ces deux finales en match 5 et la dernière en date, il y a justement 3 ans, jour pour jour. C'était vraiment une très grosse victoire dans une salle, une très très grosse chaleur dans la salle. Alors, pour le match de ce soir, je pense que comment l'aborder, s'appuyer sur les forces qui ont fait qu'on a pu dominer ces deux matchs précédemment, et surtout s'appuyer sur notre public, parce que je pense qu'on aurait une salle comble ce soir, avec la chaleur, avec cette énergie justement décuplée, dès le début du match, dès en termes de match, emballer le match et les impacter. Je pense que ce sera et ça a été jusque-là une des clés du match.
Et on le disait aussi, cette équipe que vous connaissez par cœur, c'est votre grand rival dans le championnat de France. C'est le 9e affrontement ce soir de la saison entre l'ASVEL et Monaco. Forcément, on se connaît par cœur. Comment on fait justement pour surprendre l'adversaire, Charles ?
Ça va vraiment jouer sur les détails. Je pense que cette série a souvent basculé sur les détails. Et on a pu démontrer que son nom psychologique, une fois qu'il a été pris, c'est difficile de revenir. Sur un premier match où on l'a un peu subi, et les matchs qu'on a pu dominer, comme le match 2 avec plus 37 points, ou le dernier match, ou pendant le match, je pense qu'on monte à plus 25 à un moment donné, avant que Mike James se réveille et mette des gros shoots, mais on finit quand même à plus 17. Et donc, vraiment, je pense que celui qui va, entre guillemets, prendre son nom dès le début du match, psychologique et physique, aura un gros avantage sur le match.
Ouais, Jérémy, on a également un sacré duel de coach, tu le disais, entre TJ Parker et Sacha Obradovic. Elle est peut-être là aussi la clé du match, Jérémy. Hein.
Oui, c'est l'une des clés. Charles parlait de Mike James et des talents individuels, mais il y a évidemment sur les bancs, on va suivre un petit peu ce qui se passe, mais les deux coachs se connaissent très bien. TJ Parker, lui qui était l'assistant de Zvezdan Mitrovic, devenu numéro 1 au moment de son départ. Obradovic, lui qui est arrivé au mois de décembre pour relancer l'équipe, tu le disais en amont de cette présentation, mais il a emmené quand même l'AS Monaco en play-off d'Euroleague pour la première saison de Monaco dans cette compétition. Il a arraché le ticket pour la saison prochaine également, hein, l'ASVEL et Monaco qui se retrouveront à nouveau en Euroleague la saison prochaine puisque l'ASVEL a une licence permanente. Ouais. Sur le banc, évidemment, on va suivre ce qui se passe, mais voilà, il a fallu s'adapter aussi. On le disait, la saison est très longue, 79e match de l'ASVEL, 87e pour Monaco. Il faut aussi gérer les effectifs et justement on va écouter Sacha Obradovic sur la manière de gérer un petit peu cet effectif, notamment dans cette série, cette finale qui va se terminer par un match 5.
J'ai vraiment calculé qui allait jouer et quand. Vous avez pu voir qu'un match sur deux ou presque, nous avions un roster différent et parfois, à force de trop calculer, nous avons même perdu certains matchs. À la fin, nous ne pouvons pas utiliser la fatigue comme une excuse et je pense même que nous avons bien travaillé avec nos leaders pour les reposer et les préparer pour cette période.
Et voilà le discours de Sacha Obradovic, le coach monégasque. Charles Cahudi, toi, parle-nous du coach de Villeurbanne, TJ Parker, qui est là avec vous depuis plusieurs années. Son rôle dans ce moment important, maître tacticien aussi, TJ Parker, il faut le souligner, Charles Cahudi. Hein.
Oui, bien sûr, TJ a eu quand même beaucoup d'expérience étant assistant pendant pas mal d'années, et depuis maintenant 2 ans, il est coach principal, et on peut voir que ça lui réussit bien. On a des très bons résultats jusque-là, on est encore en finale pour la troisième fois d'affilée, ce n'est pas rien. Donc forcément, sur cette série, il y a justement à faire, et je pense qu'on a réussi toujours à bien répondre. Maintenant, ce soir, il faudra justement être initiateur des schémas qui puissent nous faire rapidement prendre l'ascendant. Et je sais qu'il est préparé, les gars sont préparés. et ça va se jouer vraiment encore une fois à des détails. Donc le coach a un rôle très important là-dessus pour essayer vraiment de stabiliser l'effectif émotionnellement. Et on a pu le voir sur le match 4, on a vraiment pu utiliser beaucoup plus d'armes et on a réussi à avoir un ascendant et continuer tout le temps à agresser les monégasques. Et ça a été un gros plus pour nous.
Charles Cahudi, le capitaine de l'ASVEL, qui est en direct avec nous dans l'Intégral Sport. On vous rappelle ce soir match 5 entre l'ASVEL et Monaco pour déterminer qui sera champion de France de basket. L'ASVEL vise un troisième titre d'affilée. Charles, malheureusement, tu es blessé. Tu as été privé de ce duel. Tu aurais pu défendre sur la star monégasque Mike James, qui est aussi talentueux qu'irrégulier. Il est capable de passer complètement à côté de ses matchs ou alors de prendre feu, notamment au shoot. Est-ce que ça te laisse un petit goût amer comme ça d'avoir loupé ce duel et de pas avoir pu défendre sur un tel joueur, Charles?
La frustration et le goût amer, je l'ai forcément parce que c'est une finale et on joue pour ces moments-là. Donc forcément, ne pas pouvoir être sur le terrain avec mes coéquipiers, même si je suis sur le banc avec eux, mais être vraiment acteur, c'est une grosse frustration. Après le duel avec Mike James, bon, il est déjà arrivé pendant la saison et on se connaît en tant que joueur et forcément on joue pour ces moments-là, on joue pour ces duels-là et c'est des duels super stimulants. Maintenant, ça se joue au-delà de ça. Je pense que vraiment Mike James est un très fort joueur, un très beau joueur. Et comme tout beau joueur, il n'aime pas être titillé, il n'aime pas être bousculé. On ne va pas l'empêcher de prendre 15, 20 tirs s'il a envie de les prendre, quoi qu'il arrive. L'objectif, c'est d'en prendre les plus difficiles possibles. Le pourcentage serait le plus bas possible. Donc, il y a vraiment un gros duel avec James, mais aussi avec Bacon, mais avec un effectif et du talent individuel vraiment à revendre. Et il faut qu'on mette vraiment en avant notre collectif, comme on l'a fait sur nos victoires.
Charles Cahudi, tu restes avec nous. On va juste faire un petit détour par le Quintet à 15h18. C'est à Compiègne que ça se passe et c'est commenté par Dimitri Blanc-L'Œil. Salut Dimitri.
Salut Benoît, bonjour à tous. La dernière ligne droite, il reste 500 mètres à parcourir dans ce Quintet. C'est le numéro 12 qui a l'avantage actuellement. C'est Paper Trophy avec la deuxième place pour le numéro 10, Utamaro. Alors que le numéro 6 refait un petit peu de terrain dans cette épreuve. Almacado Gris qui essaye d'en revenir. Mais pour l'instant, côté corde, à 300 mètres de l'arrivée, c'est le 12, Paper Trophy qui est en tête. Deuxième position pour le 10, Utamaro. Est-ce que Paper Trophy va pouvoir repousser l'attaque du numéro 4 qui vient très vite? Goya Senora qui a pris l'avantage à 130 mètres de l'arrivée, 100 mètres maintenant, Goya Senora, a priori, qui va remporter ce quintet, le numéro 4, avec Grégory Benoît pour l'entraînement de Yann Barbereau. La deuxième place qui reviendra au 10, Utamaro. La troisième place, elle a peut-être été conservée par le 12 Paper Trophy, qui était rentré en tête dans la ligne droite. Mais revenons à la lauréate, c'est Goya Senora qui s'impose dans ce quintet sur l'hipporome de Compiègne, le numéro 4. Deuxième place pour le numéro 10, cote finale 6,50€ pour 1€ hein, pour la victoire. La troisième place, je le disais, elle revient à mon avis au numéro 12, devant, il me semble, la photo entre le 7 et le 2, mes préférences au 7 au moment où je vous parle. Donc, arrivée du quintet, 4, 10, 12, photo 7 et 2 pour la 4e et 5e place. On se retrouve dans une trentaine de minutes, Benoît, voilà, pour faire le point sur l'arrivée définitive de ce quintet.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Merci Dimitri Blanc-L'Œil. 15h20 sur RMC, l'Intégral Sport, on parle du match le match décisif de la finale de championnat de France de basket entre l'ASVEL et Monaco. On est avec Charles Cahudi, on a parlé de Mike James avec Charles, parlons de la star de l'ASVEL également, Elie Okobo avec toi Jérémy, c'est vraiment l'un si ce n'est, il fait partie des joueurs les plus talentueux du championnat de France, lui aussi aura une vraie carte à jouer ce soir dans ce match décisif, hein, Jérémy.
Oui, la patte gauche de l'ASVEL, Elie Okobo, le meilleur marqueur évidemment de son équipe. Il a longtemps été en début de saison parmi les meilleurs marqueurs de l'Euroleague au moment où l'ASVEL avait réalisé un départ canon avec notamment l'autre meneur Chris Jones. Elie Okobo, 24 ans, qui est arrivé cette saison à l'ASVEL pour se relancer un petit peu. Il avait tenté l'aventure NBA notamment avec Phoenix, puis il a vécu une expérience un peu compliquée aux États-Unis, notamment miné un petit peu par les blessures. Il a eu d'ailleurs des blessures cette saison, notamment à l'épaule, ce qui l'avait écarté un petit peu des parquets plusieurs semaine, et quand vous le ratez plusieurs semaines dans une saison aussi dense, vous ratez quelques matchs évidemment, mais Elie Okobo, il est là au rendez-vous pour cette finale, cette série là de partout, et on va le surveiller évidemment. C'est peut-être lui aussi qui a la clé, on parlait de Mike James, mais il a peut-être aussi la clé de cette rencontre. Elie Okobo qui aimerait évidemment faire tourner le match en sa faveur. Il a vécu un match 4 un petit peu compliqué, rapidement sorti parce qu'il était à deux fautes et ça a eu le don de l'agacer évidemment, et je vous propose d'écouter justement TJ Parker à ce sujet, son coach de l'ASVEL.
Il a envie de jouer, ça se comprend, mais il a aussi progressé sur certains aspects. Puis là, franchement, il donne beaucoup même sur le côté du terrain. Après, c'est pas un mauvais garçon, c'est juste qu'il a, lui, s'il pouvait jouer 40 minutes, il pourrait jouer 40 minutes, mais ça marche pas comme ça à l'ASVEL. Donc, voilà, faut se faire confiance et c'est ce qu'on construit et ils se font confiance.
Et là, c'est le rôle de Charles le grand frère, Charles Cahudi, évidemment, capitaine de l'ASVEL, blessé malheureusement pour cette finale. Est-ce que tu as parlé depuis à Elie Okobo, justement? Est-ce que vous avez évacué cette frustration pour qu'il soit au top pour cette finale?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On a pris le temps de discuter parce que c'est vrai que Elie, c'est un très fort talent offensif. Il nous a porté cette saison plusieurs fois et on a pu voir sur les différents matchs passés qu'il a clairement été en attaque mode vraiment pour cibler Monaco et faire des jouets. Ils se sont bien adaptés par la suite, donc ils ont essayé de le provoquer de l'autre côté en défense et ça crée de la frustration forcément parce que c'est un fort joueur. Il veut jouer, il veut tout le temps jouer. Mais maintenant, je pense que c'était une force pour nous sur le match 4, où justement, on a pu rapidement entrer dans les rotations et pouvoir le faire souffler un petit peu. Il a pris des fautes, certes, mais il était plus frais sur la deuxième mi-temps, lui comme Chris Jones, qui sont pour nous des joueurs très importants. Ouais. En mettant justement à la main, Elie, ça permet aussi d'être dans son jeu de création et de pouvoir se libérer un peu du ballon pour endormir un peu les défenses et pour la reprendre de plus belle et être plus agressif. Donc, j'espère que le message est bien passé, mais en tout cas, on a pris le temps d'échanger dessus et il a bien entendu.
Charles, tu seras où ce soir pour la finale? Tu seras sur le banc avec tes coéquipiers?
Ah oui, je serai là, oui, bien sûr.
Ah, excellent. Voilà, en train de motiver, voilà, au bord du parquet, ce match 5 décisif entre l'ASVEL et Monaco à suivre à 20h30 sur RMC. Charles, si tu vois un grand blond mal sapé, c'est Stephen Brun. On l'a envoyé pour commenter sur RMC. OK?
Pas de problème.
Bon, super. Merci Charles. En tout cas, bonne finale. Bon match 5 ce soir. Événement à suivre, je le disais, en intégralité sur RMC à partir de 20h30. Merci Jérémy. À tout
Merci
à l'heure.
Benoît.
Au
à
commentaire avec Stephen.
Avec
évidemment,
grand
ne manquez pas ce grand moment de sport qui vous attend sur RMC. Merci Jérémy. 15h23 sur RMC, justement, l'intégral sport. Et on suit cette finale à Badenbourg, en Allemagne, sur gazon pour Caroline Garcia face à Bianca Andreescu, la Canadienne. Première finale pour Caroline Garcia depuis 2019. Elle est menée 7-6 et 4-3 dans le deuxième set, mais elle mène 40-15, donc elle pourrait égaliser à 4 partout. On suit évidemment cette finale. On en parlera avec Eric Salio à partir de 15h40. Et nous, dans un instant, on parle athlétisme, les championnats de France à Caen qui sont à suivre sur RMC. On retrouvera Valentin Jamin avec cette info qui vient de tomber. Malheureusement, Pascal Martineau-Lagarde qui est forfait pour le 110 mètres haies puisqu'il est touché par une angine. On en parle dans un instant, à tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
15h28 Intégral Sport sur RMC, évidemment tout au long de l'après-midi. Dans 12 minutes, on sera en direct avec Eric Salio pour vous présenter Wimbledon, le tournoi qui démarre lundi. Évidemment, c'est important, troisième grand chelem de la saison à suivre sur RMC. On va détailler le tirage au sort qui a eu lieu hier. Serena Williams va affronter une jeune française, Harmony Tan, et puis on suivra également les parcours pour Rafa Nadal et pour Novak Djokovic. On rappelle que Nadal est toujours en lice pour un grand chelem calendaire. Il a remporté l'Open d'Australie et Roland Garros. On suit également cette finale de tennis féminin, justement à Badenbourg en Allemagne, sur gazon, pour Caroline Garcia face à Bianca Andreescu. Elle a briqué au meilleur moment possible dans la deuxième manche. Elle a perdu le premier set 7-6. Elle mène 5 jeux à 4 dans le deuxième set et c'est elle qui est au service. On vous tient informé de ce qui se passe pour la Lyonnaise. Et puis l'autre direct, c'est le cyclisme. Week-end de championnat de France, on a eu les contre-la-montre hier et avant-hier. La course en ligne féminine est en cours et on la suit avec Pierre-Yves Leroux et Cyril Guimard. Les gars, où en est-on?
Le piège est en train de se refermer car la bonne échappée, c'est peut-être celle-là qui avait été initiée tout à l'heure par Noémie Agral, qui est partie toute seule au départ, on en parlait, Benoît. Ouais. Et puis finalement, eh bien, il y a quatre filles qui l'ont rejointe. Margot Vigier de Valcar Travel et Services, Morgane Coston d'Arkea, Sandrine Bidot de Saint-Michel-Aubert et Jade Viel de FDJ Nouvelle-Aquitaine. C'est pas pour rien que je vous cite les équipes parce que en fait, eh bien, ça représente beaucoup, beaucoup de coureuse de ce peloton, ce qui fait que derrière il y a une équipe notamment qui a été piégée, c'est l'équipe Cofidis, et qui n'arrive pas à finalement fédérer autour d'elle d'autres équipes pour prendre le relais et revenir, ce qui fait qu'à 44 km de l'arrivée, eh bien ces 5 là devant possèdent maintenant 1 minute 47.
Cyril, alors?
Oui, 1 minute 47, c'est beaucoup. L'écart fluctue en fonction des réactions sporadiques, on va dire, du peloton, parce que l'organisation n'est pas en place. Les Cofidis sont piégés, mais roulent de façon quelque part incohérente. Il faudrait que plusieurs filles viennent rouler en tête de peloton alors qu'elles viennent individuellement. Elles reprennent 15 ou 20 secondes. On se relève. Toutes les autres équipes représentées devant se relèvent. Le peloton se met à 30 à l'heure. Et bien sûr, le gain de temps sur l'échappée est reperdu immédiatement. Rien ne dit que cette échappée ne va peut-être pas aller au bout.
Mais ah, peut-être ce qu'on disait, tu vois, sur ce circuit où on annonce toujours un sprint final.
Bonne indication pour demain.
Pas forcément, ouais, parce que ce matin c'était la même chose. Et devant, eh bien, on a Jadwiel qui s'était imposé à quelques kilomètres d'ici il y a deux ans, il y a trois ans même, 2019, à la Foissière. Elle était devenue championne de France, donc pourquoi pas doubler la mise aujourd'hui.
Très bien, eh ben, on suivra cette fin de course avec vous. 43 kilomètres à parcourir et donc l'écart qui se creuse entre les échappés et le peloton. Je vous signale juste qu'il y a trois balles de 7 pour Caro Garcia en finale à Badenbourg en Allemagne. Tiens, on va la suivre à l'instant. Et c'est fait, voilà, le magnifique coup droit gagnant pour Caroline Garcia. Elle égalise un set partout entre Garcia et la Canadienne Bianca Andreescu. C'est sa première finale depuis 2019. Nous sommes à quelques jours de Wimbledon et ça lui ferait beaucoup de bien au moral, évidemment. Caroline Garcia, la Lyonnaise, qui revient de loin, un long souci, une longue blessure au pied qui l'a handicapée pendant plusieurs semaines. Elle est revenue avant Roland-Garros. Elle a gagné le double avec sa copine Kristina Mladenovic. Et là, elle joue bien en simple. Elle est sur le point, pourquoi pas, de gagner cette finale à Bad Hambourg. 15h31, direction Caen pour les championnats de France d'athlétisme où on a envoyé notre Tintin reporter Valentin Jamin. Salut Valentin.
Salut Benoît, bonjour à toutes et à tous.
Bon Valentin, on annonçait de la pluie à Caen en Normandie, est-ce qu'il fait beau déjà?
Non, pas de pluie, mais pas de soleil, parce que ça reste la Normandie, évidemment, on va pas mentir aux auditeurs, mais il y a des nuages, un petit peu de vent, mais pas de pluie, effectivement, et les organisateurs s'en sont satisfaits justement tout à l'heure, en annonçant en grande pompe qu'il n'y avait pas de pluie prévue, donc a priori ça devrait rester sec, sans qu'on puisse être en t-shirt non plus, n'abusons pas.
Tu te rends compte, c'est une fierté qu'il n'y ait pas de pluie, c'est triste. Hein.
Ah, chez les Normands, on en a. Hein.
Bon, d'ailleurs, Eric Salio m'a dit qu'il connaissait très bien ce stade à Caen, et que c'était un peu champêtre, hein, donc tu vous dira ce qu'il en est, les conditions de course.
Oui, c'est ça, le Stade Elitas, en pleine ville, des petites tribunes où on voit les immeubles, enfin, c'est sympathique. Bon. Franchement, c'est ambiance championnat de France.
La petite déception qu'on a, c'est que le 110 mètres haies est amputé de deux de ses stars. On savait pour Willem Belossian, qui est le français le plus rapide de la saison. On a appris le forfait, il y a quelques minutes, de Pascal Martineau-Lagarde, hein, Valentin.
Oui, Pascal Martineau-Lagarde, effectivement, qui bien était sur la liste de départ aujourd'hui et qui finalement, ce matin, annonce son forfait. Il souffre d'une angine, il est malade, Pascal Martineau-Lagarde. Saison galère vraiment pour une des stars françaises du 110 mètres haies, qui a déjà été touchée à un mollet en début de saison, qui a été touchée un petit peu encore avant au tendon d'Achille, qui est revenu il y a quelques jours seulement, qui n'a pas fait les minima pour les mondiaux, mais qui espérait pouvoir, pourquoi pas, faire une grosse performance aujourd'hui sur les championnats de France, et qui donc bien cette fois-ci est malade. Alors il peut espérer toujours aller aux mondiaux, et on va revenir sur les critères tout à l'heure, parce qu'il a été dans le top 5 au JO, donc il reste éligible pour les mondiaux cet été, même s'il ne fera pas les minima. En revanche, pour Willem Belossian, qui lui avait fait les minima, eh bien c'est fini parce qu'il est blessé aux ischios et il va devoir eh bien récupérer cet été, ce qui fait qu'il ne sera pas aux mondiaux de Eugene. Donc voilà, 110 mètres haies, 102 de ses stars, Belossian et Martino Lagarde. Il y aura Sacha Zoya, il y aura Aurel Manga notamment quand même.
Et on rappelle que Martino Lagarde, lui, a un statut protégé, donc il sera présent à Eugene s'il le souhaite.
Il a fait top 5 au JO.
Exactement. Et vous l'avez compris, RMC au cœur de l'événement, puisque Valentin est en direct de la cabine du DJ, donc comme ça.
On entend beaucoup la musique, je ne sais pas si vous avez entendu aussi, il y avait un coureur particulièrement entouragé par sa famille, beaucoup de cris. Tout va très bien.
On disait, Valentin, c'est l'enjeu de l'après-midi et du week-end, donc sur ces championnats de France d'athlètes. L'ultime chance pour certains athlètes de décrocher leur ticket pour les mondiaux de Eugene, donc on le disait, à suivre mi-juillet aux États-Unis. Comment ça marche et qui joue sa place ce week-end, Valentin, alors?
Alors déjà, on a jusqu'à demain soir pour faire des minima. Pour faire simple, la Fédération Française d'Athlètes a fixé des minima. Par exemple, si vous êtes un garçon et que vous voulez y aller sur 100 mètres, il faut faire cette saison au moins 10 secondes 03. Voilà, on peut les réaliser jusqu'à ce dimanche. Donc pour ceux qui ne les ont pas fait ces minima, c'est jusqu'à demain, c'est la dernière course. Et si vous les faites, vous allez à Eugene. Sinon, eh bien, vous croisez les doigts parce que la Fédé va également emmener des athlètes qui n'ont pas fait les minima, mais qui, vu leur perf, sont en capacité de faire un top 20 ou un top 16 mondial. Exemple, Jimmy Vico n'a pas fait les minima, il a fait 10-10 cette année, il faut faire 10-0-3, mais peut-être que la fédération va considérer qu'il est potentiel top 20 sur 100 mètres. Donc la liste, on l'aura mercredi, mais voilà, pour être sûr, il faut faire les mondiaux et il fallait aussi passer par les championnats de France, sauf évidemment problème médical ou blessure, voilà, sauf souci. Donc globalement c'est minima, et sinon avec un peu de chance vous êtes rajouté dans cette liste parce qu'on estime que vous pouvez être performant. Et tu en parlais tout à l'heure, si vous avez fait top 5 au JO, vous avez un statut protégé, donc vous êtes quasiment sûr d'y aller. Donc Jimmy Vico n'a pas fait les minima, Mélina Robert-Bichon n'a pas fait les minima sur le lancer du disque. En plus elle avait le Covid cette semaine, on ne sait même pas si elle participera demain. Aurel Manga et Sacha Zoya sur 110 mètres haies n'ont pas fait les minima, donc eux ne sont pas sûrs d'aller à Eugene. Et Alexandra Tavernier n'avait pas fait les minima, elle ne les a pas fait hier en marteau, elle a décidé de ne pas aller au championnat du monde même si elle avait un statut protégé par les JO, parce qu'elle bien pour l'instant ne se satisfait pas de ses performance, elle fera les Jeux méditerranéens cet été. Donc voilà, pour Jimmy Vico, pour Mohamedou Fall aussi sur 200 mètres, pour Robert Michon, ça peut être vraiment un championnat de France à double tranchant.
Ouais, en rappelant que l'été est particulier pour l'équipe de France d'athlètes parce qu'elle est mondiale à Eugene en juillet, mais il y a aussi les Europes en août à Munich. Et on va dispatcher un petit peu entre les deux. Voilà, ce sont plutôt les espoirs de l'équipe de France qui iront à Munich et puis les stars de l'équipe qui iront plutôt à Eugene. C'est ce que nous expliquait le directeur de la haute performance, Romain Barra, la semaine dernière. Ouais.
En fait, l'idée, c'est vraiment d'emmener un groupe un peu plus resserré à Eugene pour qu'on puisse performer. Parce qu'il dit, ça sert à rien d'emmener quelqu'un à Eugene qui va sortir en série et qui va dire, j'y arrive pas, c'est beaucoup trop haut pour moi. Plutôt faire ça aux Europes pour pouvoir se confronter à des gens de son niveau pour derrière continuer de progresser. Mais voilà, Eugene, c'est vraiment... pas l'idée d'amener un groupe élargi, ce qui sera fait au championnat d'Europe. D'ailleurs, les minima pour accéder au championnat d'Europe sont moins exigeants que ceux de Eugene.
Bon, l'événement de la journée, et on l'attend avec beaucoup d'impatience, ça nous a fait vibrer au meeting de Paris de Diamond League avec cette course qui a été fantastique. C'est le 800 mètres masculin. Là, on a une densité incroyable puisque 7 athlètes ont réalisé les minima pour les championnats d'Europe. Et on a des hommes en forme, Pierre-Ambroise Boss, qu'on connaît bien, Gabriel Tual et Benjamin Robert, qui lui justement a été exceptionnel la semaine dernière. C'est la course qui est attendue en ce début de soirée, hein, Valentin.
Oui, c'est un petit peu nouveau, c'est vrai que t'en parlais, hein. Le 800 mètres, le visage, c'était Pierre-Ambroise Boss, champion du monde 2017, quatrième des Jeux 2016, plusieurs fois médaillé d'Europe, donc ça fait quelques années déjà. Il a connu récemment des mois un petit peu plus difficiles, et lui-même, Pierre-Ambroise Boss, a reperformé samedi dernier au meeting de Ligue de Diamants de Paris. Il a fait les minima dans une course, j'ai envie de dire presque incroyable, ce 800 mètres. Gabriel Tual, autre Français, 7e des JO, a lui aussi fait les minima pour Eugene à deux reprises. Et donc Benjamin Robert, sur cette course à Paris la semaine dernière, double champion de France en titre, a claqué hein, 1 minute 43 secondes 75 centièmes, 4e performance mondiale de l'année, 3e meilleure performance française de tous les temps. C'est un garçon qui a été éliminé dès les séries à Tokyo, qui est vraiment vraiment en train de monter, qui a un profil un petit peu, j'allais dire, bâtard, parce que endurant et rapide. Donc en fait il savait pas trop où se mettre au début. Et bien parfait, je suis endurant, je suis rapide, je fais du 800 mètres, très très bon sur la dernière ligne droite, et qui donc l'a emporté en Ligue de Diamant la semaine dernière. Donc Gabriel Tual, Pierre-Ambroise Boss et Benjamin Robert sont qualifiés pour les mondiaux de Eugene cet été. Et puis globalement il y a une grande densité, 7 garçons ont fait les minima dont on parlait tout à l'heure, mais pour les championnats d'Europe. Donc c'est probablement aujourd'hui la course la plus relevée, et ça vous allez l'entendre, ça plaît justement à Benjamin Robert, un petit peu le fer de lance qui est passé hier en finale du 800 mètres.
Pas évident parce que c'est le 800, c'est série du 800, on peut vite se faire éliminer. Donc là je passe le piège, donc maintenant on passe à demain pour la finale. Il y aura, je pense, de très beaux concurrents. Ça va être les plus gros 800 qu'on ait jamais vu, je pense.
Eh ouais, Benjamin Robert qui est 4e meilleur performeur de la saison quand même sur la distance, avec un finish incroyable à Charletti la semaine dernière. 18h20, on sera là en direct, Valentin, pour suivre cette course passionnante. T'allais direct à nous annoncer les résultats qui tombent déjà ou pas encore?
Alors oui, alors il y a la longueur féminine, le saut en longueur qui est en cours. A priori c'est Yanis David, grande favorite, qui va l'emporter. On est encore sur les séries, notamment du 400 mètres haies chez les garçons, mais je peux vous annoncer qu'hier, pas de surprise, Quentin Bigot, sacré champion de France au marteau, Alexandra Tavernier, championne de France au marteau, Hugo Hay a remporté son 3e titre national sur 5000 mètres, et Lolasson Jouan, lui également grand favori, champion de France du lancer de disque.
Merci Valentin, on te retrouve tout au long de l'après-midi pour les championnats de France d'athlètes. Tu seras là également demain, puisque ça aura lieu jusqu'à demain soir. Je rappelle d'ailleurs à tous les fans de sport et de course à pied notamment, que notre podcast RMC Running est disponible sur les applis d'RMC et sur les plateformes de téléchargement. Évidemment, vous avez des portraits de coureurs toutes les semaines, des conseils d'entraînement, même des bons plans d'ossard. Donc n'hésitez pas, l'épisode de la semaine est consacré à Sylvaine Cusseau, une championne d'ultra trail qui a fait notamment deuxième du dernier Marathon des Sables. Donc n'hésitez pas. Et puis l'autre événement RMC demain, c'est cette journée olympique qui sera au cœur de notre antenne de 9h à 19h. On sera en direct du parvis du Stade de France, évidemment journée olympique avec de nombreux invités. On peut vous annoncer notamment Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, des invités de prestige, des athlètes, des volontaires qui seront également en direct avec nous. Ne manquez pas ça demain, c'est la journée olympique à suivre sur RMC. 15h40, avant de marquer une petite pause, je vous rappelle le score. Donc en finale de tennis à Badenbourg pour Caroline Garcia, 1-7 partout entre Garcia et Andreescu, la canadienne. Dans le troisième set, c'est Andreescu qui mène 1-0, mais c'est Garcia qui est au service. Donc on vous tient informé, puis on prendra également des nouvelles de la course féminine des championnats de France de cyclisme sur route avec Pierre-Yves Leroux et Cyril Guimard dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
15h43 sur RMC, l'Intégral Sport qui va se poursuivre à partir de 16h. Ce sera avec Maxime Gras et un invité, Vincent Rathez, champion de France de rugby hier avec Montpellier. On rappelle que Montpellier a battu Castres hier soir en finale, match que vous avez suivi sur RMC. Le score 29 à 10. Les directs sur RMC, le tennis avec ce tournoi de Badenbourg, la finale. Et pour l'instant, Caroline Garcia opposée à Bianca Andreescu. Elle est menée 2-0 dans le troisième set. C'est compliqué pour Caroline Garcia. C'est Bianca Andreescu qui est au service. Et puis le cyclisme également avec les championnats de France féminins, cette course en ligne, encore 35 km à parcourir, Pierre-Yves Leroux et Cyril Guimard, et l'écart qui est maintenu par l'échappée sur le peloton pour l'instant, Pierre-Yves, hein.
Oui, 1 minute 15 à 35 km de l'arrivée, ça suffira peut-être, mais quand même ça commence à s'organiser un peu derrière, un peu mieux on dira du côté de l'équipe Cofidis qui n'est pas représentée parmi cette échappée de 5 filles. On le rappelle, elles sont à 1:13 maintenant, c'est Cédrine Carbajal qui roulait tout à l'heure, il y avait aussi Olivia Onesti et Sandra Lavenez du côté de Cofidis. Ben, on essaye de réduire au maximum cet écart puisqu'on a été piégé. Donc ça fond quand même un peu, ça descend plus que ça fond, mais est-ce que ça va suffire 35 km? Et puis est-ce que les forces vont être là suffisamment longtemps, Cyril? Elles ont peut-être réagi un petit peu tard du côté de l'équipe Cofidis.
Réagi un petit peu tard et sans une belle cohésion, c'est ce qui fait que l'écart a beaucoup fluctué. Mais je pense que d'ici quelques temps, on va voir la réaction des favorites avec bien sûr à leur tête Audrey Cordon, Juliette Labousse, Anaïs Morichon, Séverine Hérault, Aude Bianic. Voilà des filles qui, dans les 30 derniers kilomètres, vont tout faire pour revenir sur le groupe de tête.
Bon, 35 km encore à parcourir et donc on verra si l'échappée va au bout. C'était un des pronostics de Cyril. On verra si ça va, si le druide a toujours son fluide, n'est-ce pas Pierre-Yves?
Exactement, s'il est chaud pour le tour.
Et oui, le tour qui est assuré à partir de vendredi.
Non, c'est
et
ce départ à Copenhague. J'ai dit, je pensais pas qu'elle allait au bout.
Ah non, c'est pas ça que t'as dit tout à l'heure.
Attends, si.
T'as changé d'avis en un quart d'heure.
Non, réécoutez. Allez, je fais un process.
Bon, merci les gars. On revient dans un instant. 15h45, parlons tennis avec Eric Salio qui lui a préparé à boucler sa valise puisqu'il part demain. Il prend l'Eurostar direction Londres. Salut Eric.
Salut Benoît, salut à tous.
Et comment ça va Eric?
J'ai pas encore fait ma valise, mais bon, je vais super. M'y mettre. Vous inquiétez pas, je suis en train de regarder le match de Caroline Garcia.
Ah, bah justement,
c'est une belle finale.
Ouais.
Et on espère qu'elle va rétablir un peu l'équilibre parce qu'elle est breakée dans le troisième. Mais c'est un très bon niveau de jeu, c'est très encourageant pour la quinzaine du vert.
Alors ça, c'est vrai. On a eu peur parce qu'elle s'est fait manipuler par un kiné lors du deuxième set à l'épaule. Elle est revenue quand même. Elle a perdu la première manche 7-6. Elle a remporté la deuxième 6-4. Elle est menée 2-0. Mais rappelons l'événement que ça représente pour elle, qui n'avait plus joué de finale depuis 2019. En simple, hein, Eric.
Ouais, c'est ça, c'était pas une traversée du désert, mais c'était des années difficiles. Et son dernier titre, c'était déjà sur de l'herbe anglaise, mais c'était un peu plus haut, c'était à Nottingham. Donc ça prouve qu'elle a des facilités pour bien jouer sur gazon. Il faut dire qu'elle frappe très fort dans la balle, est très agressive. Et sur herbe, il faut être agressif, il faut être percutant, et c'est son cas.
Bon, Eric, l'événement tennis, évidemment, c'est à partir de lundi Wimbledon, le troisième grand chelem de la saison. Évidemment, on espère retrouver Caroline Garcia chez les des dames. C'est un tournoi très particulier. On va rappeler le contexte. On l'a fait la semaine dernière, mais faisons-le de nouveau pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément au courant. Pas de points ATP distribués, évidemment. Et on rappelle que les Russes, les joueurs russes et biélorusses sont interdits de participation. Du coup, c'est pour ça que ça rend un tournoi de Wimbledon assez particulier cette année, Eric. Hein.
Oui, il manque notamment le numéro 1 mondial Danil Medvedev qui a joué trois tournois sur gazon auparavant et pour rien, pour faire quelques points ATP, mais on peut pas dire qu'il préparait Wimbledon puisqu'il savait depuis longtemps qu'ils n'étaient pas les bienvenus avec d'autres joueurs comme Rublev et Khachanov. Donc la conséquence de tout ça, c'est qu'on a un tableau très équilibré, contrairement à Roland Garros, avec tout en haut Novak Djokovic et tout en bas Rafael Nadal, et ça tombe bien puisque ces deux carnivores, je veux pas parler d'herbivores, mais ces deux-là se tirent une bourre de manière incessante. Et
ça veut dire que s'ils se croisent, c'est seulement en finale, hein, tout simplement. Voilà.
Voilà, ça c'est l'info numéro un. On se souvient qu'à Roland Garros c'était en quart de finale. Là, s'ils se croisent, ce sera donc le dimanche 10 juillet. Et pour la beauté du sport, ce serait génial puisqu'on sait que Nadal a pris le large avec 22 titres du Grand Chelem, mais que Djokovic, là, sur son herbe, il est en capacité de revenir à une unité. Mais même s'il a gagné les trois dernières éditions, il sent quand même que Nadal a envie de pourquoi pas réussir le Grand Chelem calendaire.
C'est ça qui est dingue.
Parce que c'est la première fois qu'il se retrouve en position de signer cet exploit monumental, puisqu'il a gagné l'Open d'Australie en janvier et Roland Garros il y a quelques semaines. Et surtout, on sent qu'il a très très bien préparé son affaire, puisque au lendemain de son sacre à Roland, il est passé par la clinique à Barcelone pour une nouvelle intervention, donc une injection, on va dire d'ultrasons pour vraiment endormir de manière plus prolongée ce nerf qui l'enquiquine au niveau du pied gauche. Mmh. Et le traitement a fonctionné puisqu'il a très vite repris l'entraînement et il est sur place à Wimbledon depuis maintenant lundi et il joue.
Pour toi, Eric, le favori de ce tournoi, c'est qui?
C'est Djokovic, parce que bon, il a gagné les trois dernières éditions, faut pas l'oublier, même s'il y a eu l'annulation en 2020 au Covid, donc il reste sur 21 victoires d'affilée. C'est son territoire, c'est son royaume. Maintenant, il a pas joué de tournoi préparatoire. Bon, ça c'est pas très gênant. Il a préféré d'abord digérer son échec à Roland, qui était douloureux, puisqu'on avait lu quand même les déclarations de Goran Ivanovic, son coach, qui disait que il n'arrivait pas à dormir, il n'avait pas à comprendre ce qui s'était passé. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de déclaration officielle de Novak Djokovic, mais il va s'exprimer aujourd'hui à Wimbledon, puisque c'est le point presse. Donc on va en savoir un peu plus sur son état d'esprit. Mais on devine son état d'esprit. Il a faim. Il a faim. Il lui faut absolument cette levée du Grand Chelem. Sinon, il peut laisser la porte ouverte à Rafael Nadal. Mais il a besoin d'un 21e, en sachant que pour l'instant, ses chances de jouer à l'US Open sont assez faibles, puisque
il faut être vacciné.
Et à moins d'une évolution de la politique sanitaire des États-Unis, pour l'instant, il est pas. Il peut pas être sur la ligne de départ.
A priori, il a pas changé d'avis concernant la vaccination.
Non, je crois pas qu'il soit passé à l'aiguille.
Après ce qu'il a vécu
en Australie, en conférence de presse, mais je pense pas, non.
Ok. Eric, on avait Alcaraz à Roland-Garros, c'était la sensation avant le début du tournoi, et cette fois-ci, on a Matteo Berrettini, l'Italien, qui est un petit peu l'adversaire attendu, celui qu'on peut considérer comme l'outsider principal derrière Nadal et Djokovic pour ce Wimbledon.
Oui, parce que c'est le finaliste de l'an passé, souvenez-vous, hein, il avait cédé en quatre manches contre Novak Djokovic, et puis on l'avait un peu perdu de vue ces dernières semaines parce que il s'était fait opérer à la main, donc on l'a pas vu sur terre battue, et il a repris sur gazon en étant dubitatif sur sa forme. Bon, finalement, on s'est aperçu très vite que ça allait très bien, puisqu'il a fait le doublé Stuttgart-Queens. Alors, on va dire quand même que il n'a pas battu de top 25 pendant ces deux semaines, mais il a montré qu'il était redevenu le marteau, comme on dit, c'est son surnom sur le circuit. Il est très impressionnant sur herbe parce qu'il s'appuie sur une première balle époustouflante, et puis il a aussi un coup droit qui fait très très mal. Donc en fait, il a très peu de faiblesses. Sa seule faiblesse, c'est qu'il n'arrive pas à battre les grands dans les grands tournois. Ouais. Et là, on va lui demander pourquoi pas de battre Nadal en demi-finale et Djokovic en finale.
Pourquoi pas, t'as raison. Pourquoi pas. 15h51 sur RMC, l'Intégral Sport. Tiens, on vous tient informé de ce qui se passe pour Caroline Garcia, qui a débreaké Andreescu dans le troisième set. Tu regardes ça, Eric, en même temps. Elle est au service. Caro Garcia, elle peut égaliser à deux jeux partout dans le troisième set. Et elle est agressive. C'est le cas depuis le début de la semaine. Rappelons qu'elle a sorti Alizé Cornet en demi-finale hier. Justement, on va parler des Français, mais parlons tout de même de la sensation de ce tournoi. D'ailleurs, elle s'est exprimée en conférence de presse il y a quelques minutes. C'est le grand retour, le comeback de Serena Williams, la légende évidemment du circuit féminin. 40 ans, elle est de retour, on ne l'a plus vue sur le circuit WTA depuis un an, et elle va affronter une Française, Harmony Tan, qui elle aussi découvre le circuit principal de Wimbledon. Sacré tirage quand même pour Harmony Tan d'affronter la légende Serena Williams, Eric.
Ouais, je sais pas comment elle a, si elle a suivi en direct le tirage au sort, mais elle a dû quand même, je vais pas dire s'étouffer, mais elle a dû avoir un petit soulèvement, je sais pas, parce que c'est toujours impressionnant de tomber sur une telle championne.
Ah oui.
Harmony Tan, tu l'as dit, c'est son premier Wimbledon, elle est 113 à la WTA, et si elle est là, c'est parce qu'elle profite quand même des forfaits des Russes et des Bélarusses, parce que sinon elle aurait dû passer par les qualifications. Donc, elle aura la chance, le privilège de jouer sur un grand court, j'imagine. On n'a pas encore la programmation, mm-hmm. mais je la vois mal être programmée sur le court 22. Ça va être un test assez intéressant. D'un autre côté, elle aura rien à perdre. Hein. Et puis, on ne sait pas vraiment où en est Serena Williams. On sait juste que elle a joué deux matchs en double cette semaine, en début de semaine à Eastbourne aux côtés de Ons Jabeur. L'aventure s'est arrêtée parce que Ons Jabeur a déclaré forfait avant la demi-finale. Mais je pense qu'elle a eu les informations qu'elle voulait, puisque le soir même, elle était déjà sur les cours d'entraînement de Wimbledon. Donc je me demande si c'était pas un peu, bon, pas d'ailleurs arrangé, mais voilà, elle a joué ces deux matchs. Elle a eu la chance aussi de s'entraîner sur le central, ce qui est totalement exceptionnel cette année.
Ouais.
Puisque pour la première fois, ils ont ouvert le center court à certains joueurs, hein, on va dire une élite, pour qu'ils tassent un peu l'herbe, parce que l'an passé, il y avait eu des gamelles qui avaient fait des ravages. On se souvient de la blessure d'Adrienne Manarino et aussi de la blessure de Serena Williams. Et je pense que c'est pas innocent, cette décision des organisateurs d'ouvrir le central. Bon, pas longtemps, hein, 45 minutes, hein, mais juste pour tasser le gazon. Donc, il sera pas vierge, entre guillemets, lundi à 14h, lorsque Novak Djokovic va entamer la défense contre Djokovic. Mais franchement, je sais pas où elle en est, Serena. Elle a 40 ans. Ouais. Elle est venue quand même avec une équipe assez nombreuse. Elle a son coach, elle a un physio, elle a un préparateur mental, son agent, tout. Elle est pas venue là pour faire du tourisme. Hein. Donc, si jamais elle passe sans encombre la première semaine, je pense que les bookmakers vont s'intéresser de très près à elle.
Avec toujours ce rêve d'égaler le record de Margaret Court, 24 titres du Grand Chelem. Elle en possède pour l'instant 23. Elle court après depuis des années et des années. Et on verra dans quel état est Serena Williams. On aura le temps dans l'après-midi de parler de l'état de forme des Français. Mais on vous le dit, les nouvelles sont plutôt intéressantes pour Caroline Garcia, qui est donc en finale de son tournoi de Badenbourg. Il y a 2-1 dans le troisième set pour Bianca Andreescu, mais 40 partout. Et c'est Garcia qui est en train de servir. Rappelons que Benjamin Bonzi, lui, a fait demi-finale à Majorque. Il a été battu par Stefanos Tsitsipas hier, et qu'Alizé Cornet, elle aussi, était en demi dans ce tournoi de Badenbourg. Donc les nouvelles sont plutôt bonnes cette semaine, en un mot, Eric. Ça allait, hein, là, c'était pas mal.
Oui, Benjamin Bondy va intégrer le top 50, donc ça c'est bien. Il a eu un premier tour très abordable. On espère que Hugo Humbert va sortir du tunnel, parce que il est dans une bonne partie de tableau, à savoir qu'il a dans sa zone Casper Ruud, le Norvégien, qui d'après mes informations était encore à Capri il y a quelques jours. Donc on a l'impression qu'il n'est pas totalement focalisé sur ce tournoi de Wimbledon,
mais
qu'il pense plutôt au tournoi de sur Capri, c'est fini. Oui, ça, il est à l'entraînement.
Hein. Ah oui.
Ça y est. Mais bon, il a pris du bon temps. Il avait sûrement besoin. C'est vrai, après sa quinzaine magnifique à Roland. Mais bon, il fait pas partie des favoris pour Wim. Donc, il y aura peut-être un bon coup à jouer pour Hugo Humbert.
Merci Eric. Écoute, va préparer ta valise. Hein. N'emmène pas les Bermudas qui sont tous laids. Hein.
J'emmène le caouet quand même.
Oui, emmène le caouet. Emmène le caouet. Mais habille-toi correctement pour une fois, s'il te plaît. Rappelle-toi que tu représentes l'agence RMC Sport. D'accord?
C'est vrai, tu as raison.
Merci Eric.
À bientôt.
Allez, bon après-midi, 15h55. Et je transmets le relais en ce week-end de championnat de France d'athlée à Maxime Gras, pour la suite de l'Intégral Sport, avec un invité rugby dans un instant, Maxime.
Exactement, je prends mon bras donc pour saisir et prendre ce témoin. La deuxième partie, évidemment, de l'Intégral Sport. Des invités, oui, tu l'as dit, on parlera déjà d'un premier bilan pour les mondiaux de natation, avec Denis Hauguin qui, en tant que boss de l'équipe de France, viendra débriefer cette cette moisson qui est déjà 8 médailles avant cette soirée de mondiaux, puisqu'il est question de live évidemment aussi ce soir, les France de cyclisme, les France d'athlétisme, les mondiaux de natation donc avec Julien Richard, et puis question invitée Vincent Rathez, évidemment, on débrief, on revient sur ce titre du MHR en top 14 dans l'intégral sport. On reprend et les débats juste après 16h. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.